Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Bonjour Olivier Salleron.
Bonjour.
Vous êtes le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Alors aujourd'hui, vous avez tenu un point presse. Le logement, le mal-aimé de la République, c'est ce que vous ressentez?
Oui, c'est un titre très dur, hein, je trouve. Hein. Déjà, il y a un mot logement, mal-aimé. Et surtout le mot République, mais écoutez, c'est le sentiment que l'on ressent depuis quelques années sur un petit peu l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des gouvernements. J'exclus quand même quelques gouvernements et quelques ministres qui se sont battus comme des lions, comme des lionnes pour remettre le logement sur le devant, et c'est ce que l'on voit. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une crise du logement grave, que ce soit dans la location sociale, HLM, mais aussi dans l'acquisition, dans la construction neuve. Tout le monde est à peu près d'accord, mais aujourd'hui, rien ne se passe en concret. On le voit bien aujourd'hui. L'an dernier, on a eu le prêt à taux zéro qui a relancé le logement individuel et donc fournit beaucoup de recettes pour l'État et les collectivités. Aujourd'hui, on a ce Pinel qui est mort depuis maintenant plus d'un an, avec une chute totale de la construction de logements locatifs. Voilà, ce projet de statut de bailleur privé aujourd'hui fait aussi une espèce de consensus, mais malheureusement, par manque d'explications ou peut-être certains disent de moyens au niveau des ministères, surtout du budget, eh bien, ce statut de bailleur privé, aujourd'hui, ne donne rien, puisque les conditions n'inciteront pas nos concitoyens à investir dans la pierre, parce que les conditions sont trop faibles par rapport aux revenus.
C'est plus intéressant de ne pas l'utiliser que de l'utiliser. Nous, on a fait les calculs, ce qui est sorti, en tout cas, là, c'est pas
oui,
comme ça.
Oui, alors bon, effectivement, tout le monde fait ses calculs, dont le ministère du Budget fait ses calculs et annonce des calculs faux, hein, à nos sénateurs, qui ont été un petit peu abusés la semaine dernière, donc qui n'ont pas augmenté les critères alors qu'ils devaient le faire. Une énorme déception.
Donc pour vous, ils étaient abusés.
La construction. Oui, bien sûr. Quand on annonce des chiffres, il faut vraiment derrière dire que ce n'est pas par an, mais que c'est lissé sur une dizaine ou une douzaine d'années. On connaît la technique, évidemment, pour retourner le vote de certains. C'est, voilà. Malheureusement, c'est contre l'économie française, contre les Français et leur logement, qui est la première source de leurs dépenses de pouvoir d'achat. Et bien sûr, c'est contre les entreprises et les salariés du bâtiment qui continuent à décroître et à licencier plusieurs dizaines de milliers de personnes par an.
Alors justement, concernant les postes qui ont été supprimés, vous estimez qu'il y en a 65 000 qui ont été supprimés depuis 2022, c'est ça?
Alors, ce n'est pas estimé, c'est la réalité, hein, puisque nous, vous savez, on a nos chiffres très précis, avec nos organismes pro-BTP très précis, avec nos caisses de congés payés obligatoires très précis, et tous les chiffres se rejoignent. Oui, nous avons perdu 65 000 salariés, là, au 31 décembre, ça va être le cas. Nous allons sûrement en perdre encore 10 000 l'année prochaine.
Donc en 2026.
2026, pardon. Et si rien n'est fait, si cette relance du logement collectif n'est pas fait, eh bien, ça sera beaucoup plus. Donc, vous voyez, quand je parlais de 150 000 salariés qui étaient en danger dans la filière construction, on y est pratiquement, parce que 65 000 dans le bâtiment, c'est le double dans la filière construction, avec nos amis, malheureusement, de l'Alliance, les constructeurs, les distributeurs, les producteurs de matériaux, bien français, et tout ça, c'est bien français. C'est sur notre territoire que tout se fait, c'est non délocalisable. C'est quand même, voilà, c'est catastrophique. C'est pas dommage, c'est catastrophique.
Et ces 65 000 postes, c'est quoi? C'est des personnes qui partent à la retraite, qui sont pas remplacées? C'est des personnes licenciées?
Oui, il y a une restriction. Alors, c'est des personnes, voilà, qui sont pas remplacées, qui partent à la retraite. 60 000 à peu près personnes partent à la retraite chaque année. Et donc, il nous en faut toujours 60 000 de plus, des jeunes, des moins jeunes, des réinsérés, réorientés. Aujourd'hui, on les a plus parce que les entreprises commencent à contracter leur moyen de production, c'est-à-dire les salariés. Et malheureusement, on est encore en sureffectif. Si ça continue, s'il n'y a pas d'espoir pour les années suivantes, parce que, vous savez, dans le bâtiment, on espère toujours un rebond, hein, un cycle, en fait. Si ce cycle ne redémarre pas en croissance, eh bien, c'est pour ça que ce glissement de salariés sera plus important. Et malheureusement, les défaillances d'entreprises, dont on l'a vu cette année, les plus petites, qui ont été touchés, surtout à cause des atermoiements, des stop and go, du brouillard, de l'illisibilité de MaPrimeRénov, qui a fait un mal énorme à nos petites structures, à nos artisans.
Justement, en parlant de la formation des apprentis, il y a eu une baisse de 9%, c'est ça, en cette rentrée, du nombre d'apprentis qui ont rejoint la filière ?
Oui, parce que les conditions d'octroi d'aide des apprentis ont été modifiées. Donc, vous savez, un artisan, une entreprise, quand c'est un petit peu fou, il s'abstient. Hein, donc, on a battu. Alors, on est content quand même parce qu'on a battu le record l'an dernier. Dans le BTP, on a atteint pratiquement 100 000. On n'a pas pratiquement 100 000 apprentis l'année dernière sur les formations initiales jusqu'à l'école d'ingénieurs. Donc, ça, c'est formidable. Mais on voit que l'effort est plombé. On a parlé de baisse des aides. On a parlé aussi, malheureusement, de réduction d'allègement de charges sur les salaires des apprentis. Quand même, quand un apprenti gagne 500 euros, on va aller lui grignoter encore 20, 30, 40, 50 euros. C'est sournois, c'est malhabile. Donc voilà, et avec toute cette instabilité aussi, ça fait beaucoup de mal. Et puis, bien sûr, quand les entreprises pensent qu'ils ont un carnet de commandes qui s'égrène et devant eux un avenir incertain, malheureusement, oui, c'est la formation qui en pâtit. Et en revanche, voilà, alors que nous avons besoin beaucoup d'attirer les jeunes dans nos métiers et les plus beaux talents, puisqu'on le sait que nos métiers ont changé, le numérique, l'environnemental, la formation, tout ça a bien évolué.
Grosse déception du côté de la rénovation énergétique, ça s'effondre. Est-ce que ça contribue justement au nombre d'apprentis qui baissent ?
Oui, bien sûr, parce que c'est la rénovation énergétique des logements, beaucoup de petites entreprises qui sont dessus, sur ce créneau-là, enfin petites, oui, et moyennes, très grosses, mais si vous voulez, beaucoup aussi de petites entreprises. Donc aussi, voilà, ils prennent pas mal d'apprentis, beaucoup d'apprentis, toujours. Et là, avec cette incertitude, quelle grosse déception. Personne n'a réagi, mais la transition énergétique et écologique dans ces conditions-là, alors qu'on pensait depuis maintenant, la loi climat, résilience et tout ça, que ça allait prendre plusieurs pourcentages par an, la rénovation énergétique du logement va perdre 1% cette année, ce qui est totalement incompréhensible par rapport aux objectifs environnementaux de la France. Bon, pourquoi ? Pour des centaines de millions d'euros, c'est pas rien. Mais en tout cas, par rapport à ce que ça rapporte derrière économiquement, et ce que ça rapporte
vous
derrière...
Vous parlez des aides de l'État. Hein.
Bien sûr, en bien-vivre et en qualité de vie en France, de l'air, etc. Et de la décarbonation. Bon, tout ça, c'est incompréhensible. Voilà, il va falloir qu'on arrive à des plans plus clairs, des plans quinquennaux, triennaux, en tout cas quelque chose de plus solide.
Donc, il y a plusieurs raisons, et les Français n'y comprennent rien. Il y a moins d'aide, et aussi les Français n'y comprennent rien. Bon, c'est ça, les deux raisons.
Oui, vous savez bien que MaPrimeRénov a été dirigé directement sur les Français. Les Français doivent s'inscrire, doivent demander, doivent faire des dossiers. Bon, écoutez, je ne vous le cache pas, la plupart des entreprises locales implantées font les dossiers avec leurs clients, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement incompréhensibles. Le client ne sait pas à quoi il a droit, etc. etc. Donc, il faut continuer là-dessus. Mais en tout cas, peut-être, j'ose même pas prononcer le mot simplification, parce qu'on l'entend à tout va, et les réelles simplifications, elles sont faites que quelquefois, trop rarement. Par exemple, pour les JO 2024, on a fait de la simplification. Eh bien, on a construit vite, bien et en sécurité. Hein, c'est ça qui est important. Pour Notre-Dame, il a fallu aller vite. Mais on a simplifié beaucoup de choses aussi. Ni sur la sécurité, ni sur le travail des salariés, bien sûr, mais sur tout le reste, sur les recours, sur les permis, sur les machins, sur les normes, sur les obligations, etc. Voilà. Donc, on veut construire avec toutes les normes possibles, mais il y a beaucoup de choses à faire en simplification, dont sur la rénovation énergétique, qui touche, oui, beaucoup de jeunes qui ont envie de venir dans nos métiers, justement, parce que les métiers du concret ont un intérêt, et alors, en plus, quand c'est environnemental, encore plus.
Dernière chose, donc vous avez évoqué les conditions nécessaires à une reprise. Parmi elles, il y a le statut du bailleur privé vraiment incitatif. C'est quoi pour vous un bailleur privé vraiment incitatif ? Parce qu'on l'a dit, la forme actuelle, elle ne vaut plus rien.
Oui, alors le bailleur privé, écoutez, sur l'amortissement, il y avait un dossier, une commission, les députés et sénateurs Cosson et Drouès, qui demandaient 5% d'amortissement. Bon, il faudrait au moins avoir 4. Avoir 4 d'amortissement pour les familles intermédiaires, 5% pour les modestes et 6% pour les très modestes. Et ensuite, sur l'ancien, puisque l'ancien est aussi intégré, serait aussi intégré, au moins avoir 3,5% d'amortissement. Arrêter aussi avec la baisse maximum donc des loyers, parce que évidemment, ben, un bailleur, s'il n'a pas de rapport, n'ira pas non plus. Donc, à un moment donné, la stabilisation des loyers ou la baisse des loyers maximum, ça a plus d'effets négatifs que positifs, ça c'est sûr. Et puis surtout, il faut que dès la deuxième année, eh bien, nos concitoyens puissent déduire en fait de leur facture, de leur impôt, hein, une somme, fiscale, qui soit incitative. Sinon, ils n'iront pas. Bah effectivement, ils laisseront leur argent travailler, je ne dis pas dormir, mais travailler sur les comptes livrés A ou assurance vie, et donc n'iront pas investir dans la pierre. Malheureusement, ce sont souvent des petits épargnants, ce sont souvent des Français modestes qui achètent un appartement pour leur retraite, pour stabiliser tout ça, leur fin de vie. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus, et le drame, il est là, puisque franchement, il nous manque encore entre 50 et 100 000 logements par an pour y arriver.
Donc vous n'êtes pas favorable à la pérennisation de l'encadrement des loyers, à son développement, à son maintien ?
Non, parce que l'effet est inverse, hein, on voit très bien. Hein, si on bride tout ça, évidemment, il y a aussi des lois qui ont été votées. La pérennité des loyers n'est pas aussi assurée, hein, pour les propriétaires. Hein, oui, malheureusement, il y a des locataires qui arrivent à ne plus payer leur loyer. Donc tout ça, voilà, c'est une balance entre le bien et le positif et le négatif pour un investisseur. Aujourd'hui, la balance est largement dans le négatif. Il faut améliorer tout ça. Sinon, il n'y aura pas d'investissement. Et donc, nos Français, nos 4 millions de Français qui attendent un logement ou en tout cas changer de logement, ne pourront pas. Et évidemment, la grogne va commencer à monter sur tous les pans de la société. Les gens qui veulent avoir un enfant ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de chambre supplémentaire. Les primo-accédants sont bridés. Ceux qui veulent investir, c'est pareil. Et donc, pour nos anciens aussi, des logements aussi plus adaptés, peut-être plus petits, seraient aussi pour être disponibles. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de construction. C'est le nerf de la guerre. On peut faire tout ce que l'on veut. Tant qu'il n'y a pas assez de logements, eh bien, on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup, Olivier Salran.
Radio Immo, le Zoom de l'info. Interview et décryptage de l'actualité immobilière.